Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule. Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick. Follow the yellow brick. Follow the yellow brick road. You ought to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. You find he is a wizard of wiz. If ever a wiz there was, if ever a wiz.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voix du scénarium. Seb au micro, on va passer une heure ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le chat de la radio sur le site www.radio-g.fr, onglet chat. On répondra directement à vos petites questions, même si vous voulez poser des questions à notre invité. Pour l'instant, je suis d'abord avec Romain. Tu vas bien, Romain ?
Salut, et je remercie la personne qui a laissé un éventail dans le studio de Radio G.
Eh ben, merci à cette personne. Et on a également avec nous Clément. Bonjour Clément.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Mais de rien. Tu es le président d'ID20, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et on va parler du coup de ta structure et des événements qui vont y être associés tout au long de l'émission. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, on se chargera de les transmettre à Clément. On va commencer avec quelques news d'agenda que tu avais, mon cher Romain.
Ouais, moi je voulais juste dire que c'est à tour de rôle samedi prochain à la bibliothèque de Belleveille, donc rendez-vous mensuel de jeux de rôle, d'initiation au jeu de rôle plutôt. Donc c'est les samedis après-midi de 14h30 à 17h sur inscription, faut téléphoner à la bibliothèque. Et donc j'y serai samedi prochain avec les Gong Farmers de l'Anjou, avec Augustin qui nous fera un scénario donc de Dungeon Crawl classique, et moi je ferai Ninja City. Toujours le petit scénario de ce jeu que nous avons fait en Actual Play dans cette émission, ici même, il y a quelques mois.
T'as qu'un scénario en fait.
Oui, j'avoue, j'ai acheté un deuxième et je suis encore en train de le lire. Alors que ce ne sont que des scénarios de 10 pages, mais bon, c'est pas grave.
Ouais, mais c'est écrit petit.
Et donc, bah tiens, Clément, je sais pas si tu connais ce rendez-vous, mais il y a pas mal d'associations qui tournent en fait sur ce créneau. Donc, c'est bien aussi d'aller alors se confronter à un public très familial.
Si, on en a parlé. Je connais d'ailleurs très bien Augustin qui vient aussi jouer chez nous de temps en temps.
Et donc, c'est la dernière de la saison, mais je sais qu'on remet ça à la prochaine rentrée, à partir de la prochaine rentrée scolaire.
Bon, à partir du moment où j'aurai un peu plus de temps, je pense que je reviendrai faire des animations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
Ouais, la bibliothèque de Belbeil, qui est une des deux bibliothèques de réseau, je crois, aussi, où on peut emprunter des livres de jeux de rôle.
Ouais.
Et c'est pour ça que, de temps en temps, il y a de l'initiation, parce qu'un livre de jeux de rôle à la bibliothèque, pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça peut être intimidant.
C'est vrai.
C'est vrai que ça peut être un peu déroutant de voir toutes ces règles, toutes ces tables à la première lecture.
On sait pas toujours comment prendre le truc, c'est pas si évident que ça en fait. Il y a des gens qui me posent des questions très basiques sur le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est, comment on fait, c'est quoi le MJ, Et donc bon, il y a plutôt des jeux d'initiation, mais il y a des trucs un peu plus corsés. Et puis on en trouve aussi à la bibliothèque Nelson Mandela.
Bah, les deux bibliothèques principales en fait, avec les une ludothèque.
Ouais, les plus ludothèques peut-être, il y a celle de Montplaisir aussi qui a une grosse
jeux-thèque. Hein. Ouais. Mais l'occasion effectivement pour vous de venir découvrir des jeux de rôle, de voir un peu comment ça fonctionne, et puis bah pourquoi pas d'emprunter des choses. Alors pas le soir même, hein, on pourra pas faire d'emprunt, je crois.
Bah si, si, si la bibliothèque ferme à 17h30, donc
ok, ouais, parfait. Mm.
Et bah sinon en événement, il y aura le Ludofest, il y aura du jeu de rôle, j'imagine, là-bas.
Bien, bien sûr,
on en parlera donc, parce que c'est Idévin qui va assurer cette partie.
Cette partie jeu de rôle. Ok.
Donc le Ludofest, c'est le 13-14 juin.
Tout à fait.
Perfect. Et ben avant de rentrer dans les événements, on va peut-être juste rentrer dans la présentation avec la grande question. Mais qui es-tu, Clément ?
Eh bien,
et qui n'a pas coupé son portable ?
C'est moi. Oh là là.
Qui es-tu, Clément ? Explique-moi un petit peu d'où tu viens et puis quelle a été l'idée un petit peu derrière Idévin.
Eh ben, Clément, du coup, président d'Idévin, président fondateur. J'ai créé Idévin il y a 2 ans maintenant avec mon groupe de jeux de rôle. On est parti d'un constat très simple que je me suis fait quand je suis arrivé sur Angers en 2021, ça remonte un peu, qui était de trouver une association pour partager le jeu de rôle sur, on va dire, un segment qui n'est ni le segment, on va dire, familial,
okay,
ni le segment, on va dire, des joueurs un peu historiques qui ont des groupes depuis 10, 15, 20 ans peut-être, et de chercher un peu cette communauté d'étudiants, jeunes actifs, qui veulent se mettre au JDR, donc découvrir, ou alors tout simplement trouver quelqu'un pour jouer ou pour masteriser. Et donc, en ayant monté ce groupe-là de Donjons et Dragons avec mes amis, on s'est dit, pourquoi on testerait pas de monter ça ? Et puis, force est de constater que Idévin fonctionne bien, parce qu'en 2 ans, aujourd'hui, on est quasiment à 40 adhérents, et preuve que le segment avait besoin d'une association qui met en scène jeux de rôle sur Angers.
Ça fait quoi comme fourchette d'âge ? C'est quoi, 18-30 ?
On est plus autour du 20-35.
20-35 ?
Ouais, voilà. Je dis plutôt des étudiants, donc des gens qui vont être dans les universités, donc de Belbeil ou de Luco. Et on va dire des jeunes actifs, donc des gens qui sortent d'études et qui ont envie de participer à un loisir social, mais pas forcément un peu chill. Voilà, et le jeu de rôle remplit parfaitement cette case.
Parfait. Pour l'instant, vous n'êtes pas rendu au moment où vous allez commencer à virer des gens parce qu'ils sont trop vieux.
Non, non, non. Au contraire, on aime bien le troisième âge. On trouve qu'ils sont beaucoup plus sympas. On accepte tout le monde, évidemment, parce que c'est aussi ça le JDR. Tout le monde peut venir jouer et tout le monde peut venir incarner le rôle qu'il veut.
Ok, parfait. J'avais plein de questions et là, elle sort, c'est pas grave. On discutait tout à l'heure avant de commencer l'émission. Tu me disais que vous n'avez pas de local fixe. Vous êtes des JDR SDF?
Tout à fait. Pas de local fixe, pas de local à nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez difficile pour une association qui est aussi jeune, d'avoir un local via la mairie. Mmh. On fait avec les moyens du bord. On est très content d'avoir un partenariat avec Ludotrotter Place Lafayette qui nous met à disposition des tables et on les remercie.
Donc pour l'instant, vous jouez là-bas. Hein.
On joue principalement là-bas, okay, mais pas que. On a aussi des tables et des moments. On fait pas que du jeu. On a aussi des tables rondes, des tables de création de personnages. On essaye de mettre en place des formats autres que le jeu, autour du jeu de rôle. Et on fait ça notamment dans les bars à jeux, donc qui vont être le Welsh ou le Bigwood, ou aussi au Wallabies notamment sur Foch. Donc voilà, on essaye d'avoir des acteurs un peu locaux du centre-ville pour nous permettre de combler ce manque de local et de nous aider à développer nos formats pour proposer toujours plus à nos adhérents.
Vous jouez aussi à carte peinte
À Trélazé.
Ouais, tout à fait.
Une fois par mois, on a une soirée le vendredi soir où on propose plusieurs tables et notamment du Tagel Sécantique que j'anime.
Très bien.
Il faudrait faire presque des battles avec les arts ludiques. Hein. Vous faites une journée à...
Eh ben, on verra ça.
Vous jouez à quoi? Que du jeu de rôle, spécifiquement jeu de rôle, ouais. ou il y a d'autres activités connexes?
Non, on s'est dit... Enfin, moi, je suis plutôt jeu de rôle. J'ai créé l'association avec mon groupe de jeu de rôle. Donc, on s'est dit, on fait que du jeu de rôle. Parce que on sait très bien que si... Alors, non pas que le jeu de société soit mauvais. Au contraire, moi, j'adore jouer au jeu de société. Non, mais voilà. Il n'y a pas de ça. Mais on s'est dit, si on commence à intégrer du jeu de société... Comme le jeu de société, c'est quand même beaucoup plus simple que le jeu de rôle, on va pas se mentir. On apporte une boîte, on joue à 4, 5, 6, 8. Il n'y a pas de prise de tête. Jeu de rôle, faut qu'il y ait un MJ, faut qu'il y ait de l'écriture, faut qu'il y ait un système, faut qu'il y ait des livres, faut qu'il y ait des joueurs, faut qu'il y ait un peu de matériel. C'est moins facile à mettre en place. Et donc, on s'est dit, on fait que de jeu de rôle parce qu'on a peur de dériver sur une association un peu, on se réunit, on ouvre une boîte et puis on joue. On voulait vraiment garder, alors, pour l'instant, peut-être, on sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais pour l'instant, on se dit, on se concentre sur le jeu de rôle, c'est vraiment ce qu'on a envie de développer entre nous et ce qu'on a envie de proposer parce qu'on pense que c'est un loisir, en plus d'être très riche, qui est très fédérateur et où tout le monde peut vraiment se retrouver et s'épanouir.
Alors moi, je trouve que on peut faire du jeu de rôle avec moins de moyens que le jeu de société et surtout, le jeu de rôle, c'est plus modulable, quoi. Souvent, tu pars d'un jeu de rôle puis finalement, tu finis par faire ton propre truc. Avec ton propre matériel que t'as fait toi-même, des fois, ça nécessite pas forcément d'avoir. Alors que le jeu de société, bah, il est là, quoi. Tu joues avec la boîte, les pions, les meeples. C'est plus cadré, quoi.
Ah, c'est plus cadré, c'est sûr. Mais une boîte, elle peut durer un temps infini. Une boîte de jeu de société, je sais pas, vous ouvrez une boîte, alors je sais pas, de Flip Seven par exemple. Vous faites une partie, 10 parties, 20 parties. Dans 20 ans, ce sera la même boîte. Alors que le jeu de rôle, vous faites un scénario, bah si vous rejouez avec les mêmes gens, vous pouvez pas refaire le même scénario. Donc il y a quand même ce côté un peu préparatif, de mise en scène en fait, qui est propre au jeu de rôle. Alors effectivement, on peut faire ça avec trois bouts de ficelle et un dé, mais ça demande
sans dé, ouais.
Ou sans dé, mais voilà, ça demande quand même un minimum de préparation en amont pour pouvoir proposer quelque chose qui fasse venir et revenir les gens.
Les parties que vous proposez, c'est plutôt de la partie, on va dire, en campagne ou ça peut être principalement des one-shots? Alors, et question subsidiaire avec, est-ce que c'est forcément les mêmes joueurs ou est-ce que des joueurs peuvent venir se greffer ou partir au fil du temps?
Alors, on a fait le choix de pas partir sur des formats de campagne parce que on sait que aujourd'hui, on a donc les soirées, c'est toutes les deux semaines chez les autres auteurs notamment. On sait que les gens ont des emplois du temps. Et c'est très compliqué de dire à des gens, eh ben faut que vous venez toutes les deux semaines, sinon bah si vous loupez un épisode, c'est galère. Donc on a préféré prendre le format du one shot et dire aux gens. Alors je parle de Donjons et Dragons parce que c'est quand même le format qui est le plus joué chez nous et le plus apprécié aussi. On dit aux gens, venez avec votre personnage, créez-le, personnalisez-le, et plus vous venez, plus il va gagner l'expérience et plus il va le grandir avec vous. Et comme ça, il n'y a pas de contrainte d'emploi du temps. Il n'y a pas de « Ah non, je suis obligé de venir » ou alors « Ah, je suis dégoûté, je peux pas venir, il dévint cette semaine, je perds mon avancée en fait. » Non, aujourd'hui, vous venez avec... Ou alors vous venez sans rien, on propose des personnages déjà préfaits, vous venez et puis vous jouez. C'est vraiment un peu plug and play, vous venez, vous jouez.
Ça, c'est cool.
C'est ça que vous appelez l'Adventure League, non?
On appelle ça l'Adventure League, et effectivement. Alors, il y a un certain fil rouge, on voit des ennemis un peu récurrents, mais... Il n'y a pas forcément de lien style campagne. Donc, chez Ideva, on est plutôt en mode, vous venez vous jouer. Et voilà.
L'Adventure League, c'est uniquement ça ou il y a un cadre plus global que tu pourrais nous décrire?
Il y a un cadre, on va dire, un peu de lore.
Ouais.
C'est-à-dire, on va retrouver les mêmes cités, les mêmes ennemis, certains enjeux, mais rien qui va nécessiter un suivi, comme pourrait nécessiter une campagne. Donc, on va rester sur du one shot ou ah tiens, le méchant, c'est le même méchant qu'il y a deux fois, mais c'est juste de la référence et pas forcément du suivi narratif.
Parce que le mot ligue, il fait référence, ça fait référence au championnat sportif, non?
Alors, effectivement, pourquoi? Alors, déjà, parce que l'aventure ligue, c'est pas quelque chose qu'on a créé nous, c'est un concept qui existe déjà outre-Atlantique.
Okay.
Aux États-Unis, au Canada notamment. C'est-à-dire, c'est ces genres de rencontres où les gens ramènent leurs propres personnages. Et on a un concept qui est donc dirigé par Quentin, qui s'appelle l'Epic Table, où, à la fin, on fait un événement, on va dire, annuel, où tout ça se rencontre et donne une table à 10-15 personnes. Et qui fait l'Epic Table et la conclusion de la saison, entre guillemets.
La finale.
C'est ça.
Mon cerveau a bugué sur 10-15 personnes. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour que je me remette de ça et on en reparle juste après.
Le premier choix musical de Quentin. C'est le générique de Critical Role, la série d'animation, non?
C'est ça.
Pas trop suivi, ouais.
Tout à fait.
Et ben, on leur fait des bisous. Et on se retrouve tout de suite après. Si ça veut bien se lancer.
Aussi non, Clément. Ouais,
beside you, your nerdy best friends, and the DM to guide you, and they rise from the flames for the battles ahead. Villains beware, 'cause you're about to be dead. They got magic and flair, they got falchions and cunning, they don't see over there, there's a monster incoming. Inspiration is waiting, rise up, don't think twice. Put your fate in your hands, take a chance, roll the dice. Can you answer the call, digging deep in your soul, as the legend unfolds, now it's your turn.
Just wanna tell you. 101.5 FM.
Allez, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'écouter le générique de Critical Role, Your Turn to Roll, avec une grosse voix, qui était très cool. On s'était dit pendant le générique qu'on parlerait peut-être de la série d'animation, sauf que personne ne l'a vu, donc on va pas en parler.
Non, je peux juste te dire que je crois que le morceau a été écrit par un des comédiens de la série.
Oui, ils sont tous à peu près acteurs, chanteurs, réalisateurs. Ah,
que des gens talentueux, je suis jaloux.
Ça fait une casquette.
Je suis jaloux. On parlait de table où on se retrouve à 10-15 personnes.
Oui.
Comment ça se passe, une table comme ça?
C'est très complexe. Ça demande beaucoup de préparation. Et encore une fois, c'est un événement qui est assez rare. Hein. On fait pas ça toutes les semaines. Hein. C'est quelque chose qui arrive...
C'est une finale, sinon ce serait plus une finale. Hein.
Donc c'est un événement unique dans l'année. C'est un peu le point d'orgue d'une année complète de jeu. Qui demande qui est un peu le payoff pour les joueurs, c'est-à-dire un peu la récompense de tous se retrouver et de pouvoir tous jouer. Alors effectivement, ça demande de la préparation, ça demande beaucoup de souplesse aussi, parce que c'est beaucoup de joueurs, donc beaucoup de temps de parole.
La discipline chez les joueurs ou
également, c'est faut aussi connaître son public quand on est maître du jeu. Donc et c'est donc Quentin qui anime ça et qui sait très bien animer ce genre de table.
Ok.
Et moi, je propose qu'on parle de Nexus, du coup.
Ouais, tout à fait.
Mercredi prochain, parce que si j'ai bien compris, c'est aussi un tournoi de jeux de rôle.
Alors, c'est pas un tournoi, mais effectivement.
C'est le nom de son nom dont on a parlé. Je savais pas que ça s'appelait Nexus.
Nexus, c'est mercredi prochain.
C'est mercredi
Trotter.
Là qui arrive.
C'est le premier Nexus.
C'est le premier Nexus, première édition. D'ailleurs, il reste des places si vous voulez. Le lien est sur notre Instagram.
Je vous donnera toutes les références tout à l'heure.
Mais qu'est-ce que c'est bien
Nexus?
De savoir qu'il reste des places, on n'en parle pas.
Nexus, ça vient d'un...
Laisse parler Clément.
Du coup, comme on a vu, donc l'Epic Table qui rejoint beaucoup de joueurs d'un coup, c'est un concept très fort. Et on s'est dit, il nous faut un autre concept, un peu plus large, mais qui réunit aussi nos joueurs, nos adhérents et des nouveaux joueurs, des néophytes. Et on a eu grâce à Lieux d'autres auteurs qui nous héberge, on a eu la possibilité d'avoir, du coup, mercredi prochain, la salle pour nous, tout seul. Toute la boutique pour nous.
Okay.
Du coup, on s'est dit, il fallait qu'on fasse un événement, un gros événement, une grosse préparation. Et on a eu l'idée d'un événement multitable. Comme on pouvait voir, il y a encore quelques années, outre-Atlantique, c'est-à-dire que toutes les tables jouent en même temps le même scénario. Donc toutes les tables évoluent dans le même univers, en même temps. Et donc vous verrez mercredi, si vous venez, la libération d'une ville complètement assiégée. Et donc tous les joueurs jouent des libérateurs de la ville qui vont aider à la libération.
Il n'y aura pas d'interaction entre les tables.
Alors si, on a planché sur un système un peu maison. La grande difficulté, c'était de dire, ce qui est intéressant dans ce genre d'événement, c'est que les tables soient connectées.
Et oui.
Sinon, c'est
oui,
que
sinon
des
c'est pas drôle.
La science, bon, c'est que des one shots qui sont séparés, hermétiques. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Ça peut être sympathique, mais ça manque cette petite plus-value de l'événement, on va dire communautaire. Et on a trouvé le moyen de. On s'est dit, si on attend, je sais pas, on dit, voilà, il faut que, au bout de deux heures de jeu, il faut que tous les joueurs soient à tel niveau. Là, ça bloque. Soit les joueurs sont téléportés en avant, soit on leur dit, faut attendre 10 minutes parce que là, les autres, ils ont pas fini. Ça a donné des contraintes. Et on s'est dit, plutôt que de donner des contraintes, on a qu'à donner des bonus. Donc, plus la table avance, plus elle débloque des bonus à donner aux autres tables. Pas elle. Aux autres tables.
Il y a de l'entraide.
Enfin, c'est pas de l'entraide. C'est du gain.
OK.
Je libère 10 civils. Je donne un bonus à une autre table. Je détruis une arme de siège. Je donne un bonus à une autre table. Ou à toutes les tables, ça dépend du bonus. Et donc, on n'a que du bonus qui est donné. Et donc, chacun peut jouer sa partie, tout en ayant conscience que ses actions vont pouvoir aider d'autres tables qui pourraient être en difficulté.
Et donc, ils racontent la même histoire dans une ligne temporelle parallèle.
Non, ils sont tous en même temps au même endroit.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est des différentes factions qui vivent le même événement.
C'est
okay.
Ça, tout à fait.
D'accord.
Et on a décidé de séparer l'événement en braquettes de niveau, c'est-à-dire qu'on a un groupe, enfin des groupes qui seront bas niveau, donc là c'est plus pour les débutants ou pour ceux qui veulent vraiment aider les débutants. Un groupe intermédiaire pour les gens qui sont un petit peu rodés. Et on a un groupe, là il n'y en a qu'un, les initiés, qui sont là pour affronter du gros boss fight et pour vraiment aller chercher les généraux et qui vont vraiment un peu comprendre plus l'histoire, mais c'est normal, ils sont plus haut niveau.
Oui, soldat, capitaine, officier, quoi.
Tout à fait.
Ok.
Est-ce que, par contre, alors difficulté, est-ce qu'on peut déclencher aussi des événements qui vont perturber narrativement tout le reste? Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois. Alors, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que je pourrais être à un niveau 3, faire écrouler le rez-de-chaussée, et du coup, le niveau...
Oui. Comment tu répercutes ça sur les autres tables?
Eh ben, on s'est demandé ça, et en fait, c'est très compliqué à faire.
Ouais,
d'un point de vue mécanique.
Ou alors faut des MJ volants qui entre les tables.
On a mis en place
un super MJ.
On a mis en place un super MJ, un coordinateur qui permet de notamment les bonus, de savoir où vont les bonus, où en sont les équipes, dire ah, tiens, telle table elle a besoin d'aide, telle table elle a voilà. Donc on a un MJ qui est coordinateur, mais on a plutôt préféré garder les actes, enfin les résolutions au global, c'est-à-dire que à la fin de l'événement, en fonction des actions, des réussites ou des échecs, on saura quelle est la résolution finale du scénario global.
C'est un peu finalement une technique de jeu de rôle grandeur nature réappliquée à du jeu de rôle sur table.
Un peu, ouais. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe en wargame, en fait, en jeu de plateau, jeu de figurines, pour avoir un peu cette synchronisation et ce résultat un peu final de la partie.
Ok. Alors, il y aura combien de joueuses en tout?
Alors, on a pour l'instant, si je dis pas de bêtises, entre 15 et 20 personnes. Donc, ça va donner... ça donne pour l'instant... ouais, 4 tables, mais on est encore ouvert à d'autres places s'il y a des gens qui sont intéressés. On a des MJ en stock.
Okay. Vous arrêtez à combien de joueurs?
Ben écoutez, s'il y a beaucoup d'inscriptions sur les deux derniers jours, pourquoi pas. Je pense qu'on peut faire. On a de la place techniquement pour 40 personnes.
Ah ouais.
Mais ça va faire beaucoup de MJ.
Ouais.
Parce que ça va faire 8 MJ, donc là on va être un peu short. Mais si on a 5-6 inscriptions de plus, il y a pas de souci.
Des groupes de 5, du coup.
C'est ça, des tables de 5.
Ok.
On a toute la place pour nous, on peut se permettre.
Et les challenges. En tout cas, c'est un événement que j'ai peu entendu.
Ouais, moi aussi.
Et c'est, je suis pas dispo, mais j'aurais été très curieux en fait de voir, et je serais preneur d'un compte rendu de ça, Clément.
Mais avec grand plaisir.
Oui, j'imagine qu'il y en aura.
Il y en aura. Bah oui. Et nous, on est très curieux aussi parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on a créé vraiment maison et on se demande. Enfin, on croit au projet, donc on sait que ça va marcher, mais on a hâte de voir un peu les écueils dans lesquels on va tomber et dans lesquels on n'est pas préparé.
Ouais.
Pour améliorer le concept qui reviendra forcément à la rentrée.
Pourquoi ça s'appelle Nexus ?
On voulait quelque chose d'un peu de convergent. Et donc le Nexus fait un peu appel à ça, sans vouloir spoiler peut-être les auditeurs qui vont jouer chez nous, mais c'est vrai qu'on est dans une écriture un peu proche d'un Marvel Cinematic Universe, si on veut.
Il y a du crossover quelque part.
Un petit peu.
Et tu parlais d'un siège, alors en gros, est-ce que tu peux nous pitcher, mais juste en quelques mots, cette histoire ?
On a écrit le scénario, la ville d'Azmangat est une ville fortifiée dans les plaines du Nord, voilà, type un peu Game of Thrones dans le Nord, tout ça. D'un coup d'un seul, elle est attaquée par l'armée d'un warlock, voilà, qui sort un peu de nulle part.
C'est un magicien, le Warlock.
Ouais, c'est ça. C'est un magicien, un peu des ténèbres, là, quelqu'un d'assez obscur, dont on connaît pas vraiment les motivations. Et les aventuriers sont engagés un peu en catastrophe par la guilde pour venir libérer la ville.
Quand même.
Et donc, on va avoir le braquette de bas niveau qui va être là pour sauver les civils, aller aider dans les ruelles. On aura le braquette intermédiaire qui va être là pour attaquer et saboter les armes de siège qui empêchent l'armée de rentrer dans la ville. Et on va avoir le bracket haut niveau qui là va être là pour attaquer les forces et les colonels du Warlock pour un peu défaire son terrible dessein.
Ok, et en système de jeu, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Eh ben, on est, vu que c'est ce qu'on connaît le mieux, Donjons et Dragons 5e édition. Déjà parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, donc pour l'écriture, la masterisation, ça nous paraissait normal. Et comme beaucoup de gens chez nous ont leur personnage de Donjons et Dragons, ou savent faire des personnages de Donjons et Dragons, et ben c'était le système un peu normal pour que les gens puissent quand même venir jouer avec un personnage qu'ils ont fait eux-mêmes. Comme ça, c'était plus naturel pour nous.
Même si les gens qui veulent découvrir ont un personnage prétiré qui leur sera fourni.
Tout à fait, on a créé aussi des prétirés pour l'occasion, donc il y aura de quoi faire.
Ça va durer combien de temps, alors, cette soirée ?
Alors, on a prévu une durée de 3 heures, on peut un petit peu déborder, mais voilà, donc avec 15 minutes de préparation en amont pour bien comprendre les mécaniques de bonus, pour bien comprendre comment ça va se passer, le coordinateur, comment... Et puis donc, ouais, 3 heures plus de jeu, on va dire.
Et ça commence à...
Alors, ça commence à 18h30, mercredi. Entrée payante à payer sur place, c'est 3 euros.
Ok.
Voilà.
3 euros, 3 heures de jeu, ça va.
Voilà.
C'est rentable.
On est plutôt sur un bon taux horaire.
Je pense même que vous pouvez relayer l'idée à... C'est Hasbro France, non ? J'imagine qui distribue ce...
Ouais, il y a des chances.
C'est ça, c'est Hasbro France qui distribue Donjons et Dragons, donc...
Ouais, je pense que vous
pouvez... Ah bah, si ils nous écoutent...
À l'issue du tournoi, je pense que vous pourrez aller leur montrer, dire, regardez ce qu'on a fait et tout, ça va peut-être vous intéresser, ce format-là.
Ouais.
Je trouve ça vraiment original et intéressant comme idée.
Ouais, j'ai hâte de voir...
Bah, nous aussi.
Ouais, je croise les doigts pour qu'on n'y ait pas le petit truc qui sera compliqué à gérer, mais
on croise les doigts aussi, mais bon,
c'est le taf des MJ, ça.
On sait improviser, hein, normalement, donc
un bon MJ, c'est un MJ qui sait faire croire aux joueurs que tout était prévu.
Tout à fait.
Et donc on retrouvera, on va dire, des habitués, alors peut-être des membres de l'asso déjà.
Bien sûr, il y a pas mal d'adhérents qui sont inscrits, mais aussi on a pas mal, et là ça nous a un peu surpris, mais ça nous ravit, on a énormément de nouveaux, des gens qu'on ne connaît pas et qui sont des connaissances de connaissances, des gens, ou alors des gens qui viennent simplement...
Ouais, ça peut être des clients du magasin.
C'est ça, des gens qui ont vu la pub sur Instagram, qui se disent, tiens, un événement un peu collaboratif Donjons et Dragons, je fais ça une fois, de temps en temps, hop, et puis je m'inscris.
Terrible. Deux questions, là, alors, en dehors de... Alors, on va continuer sur les événements déjà qui sont programmés, et puis on parlera d'autres choses après, mais après Nexus, il y a quoi de prévu
Nexus. Alors après Nexus, on va boire un coup, mais après oui. en événement.
Avec modération, je précise.
Le 13 et 14 juin, on a le Ludofest au Parc Expo. Donc nous, comme on est partenaire du Ludotrotter à l'année, bah forcément, on va pouvoir animer du jeu de rôle aussi au Ludofest.
Okay.
Donc ça, on a très très hâte. L'Angers Geek Fest pour nous a été vraiment une très grosse réussite, donc on a hâte de remettre ça.
Cool. Si on veut vous rejoindre, ça se passe comment?
Alors,
il y a une adhésion à l'année,
il y a une adhésion à l'année. Comme j'ai dit, notre public c'est vraiment les étudiants et les jeunes actifs. On sait que les étudiants, ils ont pas forcément les moyens. Donc chez ID20, l'adhésion c'est prix libre.
OK.
Avec un minimum de 5 euros par an.
Ça va.
Donc voilà. Donc vous mettez ce que vous voulez. Comme on dit aux gens, faut pas adhérer tout de suite. Faut venir. Non mais faut venir voir un peu comment ça se passe. Et si on aime bien l'association, si on veut soutenir le projet, si on veut s'investir, là on adhère. Parce que comme ça, on est sûr d'avoir des gens qui sont là pour l'association et qui sont là pour le jeu de rôle aussi. Et donc, mais alors, pour le coup, rien n'empêche de venir jouer chez ID20 sans être adhérent et juste venir comme ça, jouer chez lui d'autres auteurs, chez Carte Peinte, c'est gratuit.
Ok.
Donc, comme j'ai dit, vous venez vous jouer.
On a parlé de Donjons et Dragons, qui est qui semble être le fer de lance, on va dire, des parties.
Ouais.
Mais on peut jouer à quoi d'autre? Tout jeu, n'importe qui peut venir avec son propre jeu, proposer des parties.
Ouais, alors bien sûr, on a, par exemple, récemment, on a Laurent, qui est un nouveau MJ qui masterise du Z-Corps. Du zombie un peu plus horreur. On a Charles, qui masterise du Morgborg, notamment chez nous.
Ouais, c'est souvent, ouais.
Ouais, c'est ça. On a du Knight, on va avoir, du Tales from the Loop, du Tales Quantique. Donc on a plein de petits systèmes. Et aussi, on a un système maison pour l'initiation.
Okay.
Parce qu'on garde une fois par mois, donc une séance sur deux, on a une table qui est dédiée à l'initiation. Pour que les néophytes puissent venir jouer, venir découvrir ce que c'est le jeu de rôle, ce que c'est jouer un personnage, ce que c'est un lancer de dés. Donc, c'est un système, alors c'est adapté du système Tiny D6 de Tiny Dungeon, qu'on a un peu refait à notre sauce, avec nos propres personnages, nos propres scénarios. Donc là, on a toute une valise dans plein d'univers disponibles. Et qu'on m'a dispo aussi des nouveaux MJ qui voudraient essayer.
Oui, c'est aussi l'occasion de découvrir un jeu dans lequel on n'a pas l'habitude, quoi.
Tout à fait.
Là, puis j'ai vu que Charles, il avait fait jouer Hit the Reich, par exemple, qui est un jeu de rôle qui n'a jamais été traduit en France, par exemple. Donc, vous avez des trucs super pointus, quand même, indé et assez recherchés.
Ah ouais, on a la chance d'avoir des MJ qui sont assez anglophones. Donc, on a pas mal de systèmes qui viennent d'outre-Manche, d'Atlantique.
Ouais.
Et ça permet de proposer des choses un peu innovantes, même si c'est vrai qu'on garde cette base Donjons & Dragons Heavy, on va dire. On est très centré sur Donjons & Dragons, mais c'est vrai qu'on aime bien proposer des choses à côté.
En fait, vous avez toujours trois tables, les séances du mercredi.
C'est ça. Chez Lieu Trotteur, on a toujours trois tables. On a toujours une table Donjons & Dragons. On a toujours une table, ce qu'on appelle la table découverte, qui est en fait des systèmes qui vont tourner. Je sais que, par exemple, là, prochainement, on aura du FF14, par exemple. Donc, des choses très... Moi, j'aimerais bien faire du Fabuleux Ultima, mais bon, voilà, c'est des systèmes encore qu'il faut bosser. On a eu Dies Irae, il y a pas longtemps, qui est un système un peu... fantaisique historique, la période des guerres des 100 ans. Donc ça, c'est la table découverte. Et l'autre table, donc, elle alterne. Soit on met du Donjon et Dragon, parce que c'est ce que les gens veulent. Soit on met l'initiation pour faire découvrir les néophytes.
Ok.
Et puis un conseil quand même, réservé rapidement à l'avance, parce que les places partent très vite. Hein,
ça part très 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 vite. On est très souvent complet le mercredi. Comme je dis, c'est gratuit, donc il faut juste s'inscrire pour être sûr d'avoir une place. Après, c'est vrai que des fois, il y a quelques désistements. Donc, si vous voulez passer... et dire, oh, je peux peut-être me m'insérer sur une table, il y a toujours moyen.
Ok. Et là, c'est pareil, ça commence toujours à 18h30.
Là. Alors là, on est plus sur 19h-21h, c'est des créneaux de 2h, qui sont un peu plus courts, mais je pense 2h, c'est, pour un one-shot, c'est correct. C'est pas, alors 2h, on va dire 2h plus, ça en déborde un petit peu de temps en temps, mais c'est des créneaux qui sont faits pour du one-shot. Alors c'est ce qu'on dit à nos MJ, notamment nos nouveaux MJ. C'est un format qui est particulier, le one-shot. On sait d'abord qu'il faut écrire en fonction de la contrainte de temps. Et une fois qu'on a ça en tête, bah, faut s'y plier.
Oui. Oui, ça me paraît évident.
Voilà. Donc, c'est un peu spécial, mais les gens s'y font très bien. Et même, j'ai envie de dire, au contraire, je pense que ça booste un peu nos talents d'écriture, d'avoir ces contraintes-là. Je pense qu'on a beaucoup progressé en écriture, d'un point de vue général, en termes de masterisation, depuis qu'on a commencé l'association. Et, aujourd'hui, ça roule très, très bien.
Top. Je propose qu'on se refasse une petite pause musicale avec un deuxième morceau. Qui est? Qui est-ce qu'il a pris?
C'est Clément.
C'est moi, mais j'ai oublié le titre.
Sinon, je l'ai, moi.
Ah ben, je l'ai, tu me le donnes.
C'est The How Hello's Dear Wormwood. C'est ça?
C'est ça.
Eh ben, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Falsac FM.
À coup de hache, hein.
Ça a été un peu raide, ouais, désolé, mais
les pauvres O'Hellos.
Ouais.
Avec qui nous sort ça d'où, excuse-moi.
Ouais.
Clément.
Eh bah, ben, tout simplement, j'ai demandé aux adhérents ce qu'ils voulaient que, comme chanson, et c'est ce qui est ressorti le plus.
Ah ouais, quand même.
Donc, mais c'est vrai que cette gigue d'aventure et de balade, c'est très JR.
Alors cet album, j'ai regardé, il fait référence à un roman épistolaire de C.S. Lewis.
Oui. Qui a fait quoi, C.S. Lewis ?
Le monde de Narnia, non ?
Bah ouais. Ouais.
Et roman épistolaire qui était dédié à Tolkien. Donc ça tombe bien parce qu'on va s'écouter aussi dans quelques minutes l'interview que j'avais réalisée de Lucie Pintor, commissaire de l'exposition Aubusson Tolkien. Tu étais là voir, Clément.
Non, je n'ai pas encore eu le temps, mais c'est dans mes projets.
Bon, tu as encore le temps, oui. Parce que c'est jusqu'au 7 ou 8 novembre. Et d'ailleurs, il y aura une soirée jeu de rôle à cette occasion.
Ah ouais.
Et puis, il y avait Mallory Champion aussi qui est animatrice, parce qu'il n'y a pas que l'expo, il y a pas mal d'animations en Tolkien tout au long de cette saison.
Eh ben cool ça.
Je voulais demander à Clément quand même les soirées au Welsh pour les MJ, c'est quoi ?
Alors, c'est des soirées assez spéciales.
Pour les MJ, ouais.
Oui, pour les MJ. En fait, c'est pareil. On s'est dit, alors les joueurs, ils sont bien sympas, mais c'est vrai qu'on est vachement mieux entre MJ.
Note.
On est content d'avoir des joueurs qui s'inscrivent quand même quand on propose.
On adore les joueurs. Mais en fait, on est parti d'un constat très simple, c'est-à-dire qu'il y a forcément mathématiquement moins de MJ que de joueurs. Et on s'est dit, ce serait quand même vachement bien d'avoir plus de MJ. Donc on a décidé de mettre en place un concept qui est de faire des tables rondes avec les gens sur le thème de la masterisation, dans un endroit un peu sympa, donc le Welsh. Et donc on essaye d'avoir une fois par mois une petite soirée autour d'un thème. La dernière, c'était il y a 3-4 semaines, sur le thème du world building. Et on essaye d'avoir toujours, alors table ronde, donc c'est plutôt des temps d'échange avec deux, on va dire deux tables, une table on va dire où les ceux qui ont de l'expérience vont aider les nouveaux, et une deuxième table où on va échanger plutôt entre amateurs éclairés sur certains points. Par exemple, la dernière fois on discutait, tiens, comment toi tu fais un panthéon, comment tu fais un système économique, puis on parlait de ça, voilà. Donc en fait, on met en place des temps d'échange pour donner aussi envie aux gens de faire de la masterisation, et puis pour donner des clés. Parce que c'est vrai que se lancer, par exemple, je connais bien Donjon Dragon, donc Donjon Dragon c'est bien, enfin c'est bien, chacun son avis.
Non mais tout le monde a l'air.
Disons, disons que on achète un bouquin à 50 balles, on n'a pas un pet de l'or.
Ah bon ?
Ah, y a rien. Il y a
des bouquins de l'or à 50 balles quand même chez eux.
Si, mais c'est un autre bouquin.
C'est un autre bouquin.
Donc en fait, t'achètes.
Ça fait 100 balles là.
Donc voilà. Donc t'achètes ça à 50 euros. Tu sais pas quoi faire.
Finalement, j'espère qu'Hasbro France nous écoute pas.
Hein. J'espère qu'ils nous écoutent. Non, mais ce que je veux dire, c'est un modèle économique certes, mais je veux dire, tu veux jouer à Donjons et Dragons, bah t'es un peu obligé d'écrire. Si tu veux pas dépenser plus d'argent. Et écrire, c'est compliqué. Écrire, c'est pas facile, c'est pas fait pour tout le monde. Et donner des clés, donner des pistes, ça peut être bénéfique. Déjà parce qu'on n'a pas tous la même approche. Donc le système un peu de table ronde, ça va aider à avoir des avis très divers. Je sais que moi, j'ai pas du tout la même manière d'écrire que d'autres membres de l'association. Donc ça permet aussi d'avoir, pour les néophytes, d'avoir des points de vue, d'avoir des références très très variées.
Ok. Écoute, parfait. On va arriver sur la fin. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu où on peut retrouver ID20, que ce soit physiquement ou sur les réseaux ?
Alors, physiquement, vous pouvez y retrouver chez Ludo Trotter un mercredi sur deux. Et donc, le prochain mercredi, ce sera ce mercredi de cette semaine pour le Nexus. Et sinon, vous pouvez y retrouver sur Instagram, id20.inso. Où on est assez actif et qui vous met les liens de notre Discord, de tous nos réseaux pour pouvoir nous suivre et pouvoir discuter avec nous, nous poser des questions et puis échanger tout simplement.
Je rappelle que si on veut vous rejoindre, c'est une adhésion de minimum 5 euros
voilà,
par an et plus si vous êtes très riche.
C'est ça.
Ça vous serait d'ailleurs plutôt cool. Prochain événement Nexus mercredi prochain. Ludo Fest après, à tour de rôle dans la foulée. Non, à tour de rôle, c'est que Romain.
Non, c'est que Romain.
Mais ce sera ID20 à la rentrée, je parie.
Mais on aimerait bien, mais il faut qu'on se trouve du temps et des MJ.
On n'a pas encore les dates, de toute façon.
Eh ben, c'est parfait. Est-ce que tu as un famous last word, Clément?
Roll for initiative.
Allez, c'est parti. Romain, je te laisse présenter ce qui suit. Non?
Oui, donc c'est l'interview de Luce Pintor, commissaire de l'exposition Aubusson-Tolkien, encore visible jusqu'au musée
Jean-Lancien,
avec Mallory Champion aussi, animatrice là-bas.
Eh ben c'est parfait. On lance l'interview, il y a un morceau musical à la suite, et puis on profite déjà pour vous dire au revoir, même si on reprendra un petit peu de voix.
Alors, tout part effectivement avec le projet de la création de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, qui est plus qu'un musée, qui est un centre de création qui visait à la base à sauver l'art de la tapisserie tel qu'il était à Aubusson, c'est-à-dire la tapisserie de Basse-Lys, dont les ateliers étaient en train de mourir parce qu'il n'y avait pas de repreneur, faute de formation sur le territoire pour permettre à des nouveaux artisans de reprendre le flambeau de la tapisserie aubussonnaise. Et en fait, donc, la Cité internationale de la tapisserie, c'est certes un musée qui abrite des collections historiques, mais c'est aussi un centre de formation pour renouveler sur le territoire la formation de lissiers et surtout de lissières maintenant, pour de nouveau travailler dans les ateliers du territoire qui sont privés, qui donc dépendent de la commande qui leur sont faites. Et c'est aussi un centre de création, puisqu'il y a une politique de création publique à la cité, de commande publique. La tenture Tolkien en fait partie. Et alors pourquoi les dessins de Tolkien en eux-mêmes? En fait, au-delà de créer des tapisseries contemporaines, il y a eu la volonté de rivaliser en fait avec l'art de la tenture narrative en tapisserie. Et donc l'équipe de la cité s'est demandé mais quel texte, quel ouvrage littéraire on pourrait prendre comme inspiration pour créer une tenture qui parle aux gens du 21e siècle aujourd'hui. Et c'est un peu par hasard qu'ils sont tombés sur une interview de Christopher Tolkien, fils de Tolkien, exécuteur testamentaire de l'artiste, qui expliquait au fil de l'interview qu'il y avait, entre autres choses, dans l'œuvre de son père, tout un pan graphique de dessins, inconnus en général du grand public. Et là, ils se sont dit, mais c'est formidable, tout le monde connaît la littérature de Tolkien. C'est popularisé en plus grâce aux trilogies d'abord du Seigneur des Anneaux et ensuite du Hobbit. Et en plus, ils se sont dit, mais comme on a en plus des dessins de la main de l'artiste, on a la matière iconographique à pouvoir traduire en tapisserie. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont lancés. Ils sont rapprochés du Tolkien Estate. Ils ont demandé la permission à Christopher Tolkien de se lancer dans ce projet. Ils étaient ravis. Ils ont sélectionné ensemble les illustrations. Et ensuite, l'aventure du tissage pouvait commencer.
Là, on a 14
16. Pièces. Il y en a 16 dans la tenture, 14 qui sont présentées côté Jean Lursa. Ce qu'on appelle le côté Jean Lursa, musée Jean Lursa, c'est cette ancienne salle des malades de l'ancien hôpital Saint-Jean, une bâtisse immense de la fin du XIIe siècle, avec des voûtes en pierre qui avant abritaient l'hôpital, mais qui depuis 1968 expose le Chant du Monde de Jean Lursa, qui est le grand chef-d'œuvre de la ville d'Angers et qui a été exceptionnellement prêté à la Cité internationale d'Aubusson pour fêter les 10 ans de sa création, mais aussi les 60 ans de la mort de Jean Lursa. Et en échange, donc, nous accueillons le grand chef-d'œuvre de la Cité internationale, la tenture Tolkien. 14 des pièces sont présentées à côté. Une tapisserie et un tapis d'un format ou d'un style un peu différent sont présentés dans le bâtiment à côté, le musée de la tapisserie contemporaine. De ce côté-là, on explore plutôt la genèse de la création de la tenture et vraiment d'un point de vue technique, comment on passe des petits dessins de Tolkien à ces tapisseries monumentales.
C'est la première fois qu'on décroche le Chant du Monde de Jean Lursa.
Alors, c'est pas tout à fait la première fois, mais il n'est pas parti d'Angers depuis 1998, où il avait voyagé au Japon pour les commémorations des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, puisque c'est en tout cas le début du message de la tenture de Jean Lursa. Il parle explicitement de la menace nucléaire. Elle avait été, cette tenture, décrochée une fois en 2007, ou en 2008, pour simplement des travaux d'entretien. Mais elle n'avait pas quitté la ville depuis plus de 25 ans, donc c'était une grande aventure pour nous.
Alors Luce, vous signez un article dans le MOOC du club Arthur Dent sur Jean Lursa et J.R.R. Tolkien, deux témoins de leur temps.
Oui, en fait tout le monde s'était fait la remarque que Tolkien et Lursa sont tous les deux nés en 1892 et en tirant le fil des parallèles, on s'est rendu compte aussi qu'ils avaient tous les deux combattu pendant la Première Guerre mondiale. Touché d'une manière différente par la Seconde Guerre mondiale, Lursa, lui, s'est impliqué dans le conflit, il était résistant, et il a perdu son fils adoptif dans le conflit. Tolkien, ce sont ses fils qui se sont engagés, qui se sont mobilisés dans la bataille. Et puis, ça a forcément marqué leur œuvre d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je cherchais à explorer dans l'article.
Techniquement, on peut dire que les dessins de Tolkien et les tapisseries de Jean Lursa sont d'inspiration de la tapisserie médiévale ?
Alors, les deux puisent en effet dans cette source première de manière différente, en tout cas par des biais différents. Il faut commencer par Jean Lursa, qui était peintre à l'origine, qui s'intéresse à l'art textile et qui découvre, entre guillemets, la tenture de l'apocalypse au château, qui est une révélation. En gros, au 19e siècle et au début du 20e siècle, la tapisserie telle qu'elle était pratiquée, notamment à Aubusson, c'était une optique d'illusionnisme et d'imitation de la peinture. C'est-à-dire qu'on cherchait à recopier la peinture et à perdre finalement l'esprit de tissage, l'esprit de la couleur. Et pour Jean Lursa, c'était un égarement. Et il fallait revenir aux sources de l'art de la tapisserie, qui était l'art médiéval, où il y avait une gamme de couleurs plus limitée, un point de tissage qui se voyait à l'œil nu. Et pour lui, c'était une manière pour l'art de la tapisserie de s'assumer, d'exister en tant que tel, en s'affranchissant du modèle de la peinture qui était devenu omniprésent et peut-être trop écrasant. Jean Lursa n'était pas le seul, en fait, à avoir compris ça. À Aubusson, déjà, les lissiers, les artisans qui étaient sur place, et notamment de l'école d'art qui se trouvait là-bas, faisaient déjà des expérimentations qui allaient dans ce sens, un retour à une forme de simplification du tissage. Et finalement, c'est un peu la rencontre de ces deux-là. Jean Lursa qui découvre les lissiers d'Aubusson, qui leur présente ces nouvelles techniques, et Lursa qui s'en empare pour exprimer ce qu'il avait au fond de lui, et c'est comme ça qu'il mène ce qu'il appelle son aventure de la renaissance de la tapisserie française, ou le renouveau de la tapisserie française. Bien des décennies après, Aubusson se lance dans l'aventure tolkienne, qui lui-même était un professeur de linguiste et de littérature médiévale anglaise, qui puisait lui-même pour son imaginaire littéraire fortement dans la littérature, les contes et les légendes médiévales. Et donc ça faisait sens finalement de reprendre cette technique-là qui avait été employée par Lursa pour son Chant du Monde, dans la mesure où si Tolkien de son vivant était venu à Aubusson pour dire « Est-ce que vous pouvez traduire mes dessins en tapisserie ?» C'est probablement ces techniques-là qu'ils auraient mobilisées. Et a posteriori, c'était une manière de rendre hommage, même visuellement, à l'œuvre de l'artiste et de rester fidèle à son style.
L'exposition, elle est ouverte depuis le début du mois d'avril. Est-ce que vous avez un public différent ?
Alors, on touche notre public habituel, voilà, nos habitués, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir d'autres gens qui viennent, qui découvrent, parce qu'ils sont attirés tout d'abord par l'univers de Tolkien, et qui découvrent la tapisserie, qui découvrent le musée et les artistes qu'on peut avoir aussi dans notre parcours permanent. Donc, on est ravis. On touche notamment un public assez jeune, beaucoup d'ados, de jeunes adultes, et aussi des personnes qui ont grandi avec les films, notamment, hein, qui ont permis à Tolkien et son univers de se faire connaître et de prendre une place immense dans la pop culture actuelle. Et c'est sympa de découvrir ça.
Et du coup, on peut parler des animations qui arrivent, alors
oui,
il y a pas
sûr.
Mal de choses différentes.
Absolument, ça commence dès 6 ans. On propose au jeune public, en famille, de venir partir à la découverte des histoires du Hobbit, notamment, tout en, bien sûr, découvrant l'art de la tapisserie, puisque notre exposition s'appelle Aubusson Tis Tolkien, donc le but est toujours de faire le lien avec la tapisserie. Et donc, eh bien, ensemble, on apprend, on découvre les histoires de Bilbo le Hobbit, et on tisse une petite tapisserie. On peut même le rajouter à la fin, notre petite pierre arcane qu'on a dérobée, tel Bilbo, à Erebor. Okay. On a également pour un public ado, les 7-10, les jeunes ados et les 11-15, le même type de visite, hein, où encore une fois, on part à la découverte des univers de Tolkien à travers Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, et on apprend à tisser sur des métiers. On repart avec, avec sa tapisserie. Bien évidemment, on peut aussi découvrir cette exposition à travers des parcours commentés qui sont ouverts à tous à partir de 12 ans, où on peut explorer le projet Aubusson Tolkien de cette grande tenture, et encore une fois plonger dans cet univers, ces univers si particuliers. On a plusieurs ateliers aussi qu'on propose. Sur 3 demi-journées, on propose sur réservation à des gens de venir découvrir la tenture et de tisser à la manière des lissiers d'Aubusson. Ils tissent avec un professionnel, un lissier professionnel, et ils repartent avec leur tapisserie, donc ils montent eux-mêmes leur chaîne, leur fil de chaîne, voilà. Ils créent leur propre projet du début à la fin, et il y a même un deuxième niveau pour les gens qui ont déjà tissé, de faire un niveau perfectionnement, où là, pour les personnes qui ont déjà réalisé de la tapisserie, eh bien, ils peuvent aller au niveau supérieur et rentrer vraiment dans les techniques des lissiers d'Aubusson. Et puis, petite particularité, parce que Tolkien nous permet de nous ouvrir à d'autres possibilités, eh bien, nous allons accueillir des personnes de l'association Tolkien Deal, qui est l'association francophone qui fait résonner l'univers Tolkien, notamment grâce à leur site internet qui est extrêmement complet. Et donc, une personne de Tolkien Deal va venir pour organiser des ateliers d'écriture elfique. Donc, on va pouvoir...
En langue elfique.
En langue elfique, on va pouvoir écrire en langue elfique, apprendre à écrire en langue elfique. Donc, pour tout ça, on a plusieurs dates cet été.
Et donc, on vous conseille de réserver.
Absolument, oui. Ça va partir vite.
Alors, il y aura aussi un concert dans le cadre de Pianopolis, j'ai vu.
On a un concert de Bach à Tolkien qui va avoir lieu. Et puis, on a également Paysages sonores autour de Tolkien, qui est un concert de cordes et d'électronique. Voilà. Dans l'hôpital Saint-Jean, ouais, dans ce grand espace, cet ancien hôpital médiéval, tout va se faire ici. Donc, on sera vraiment plongé dans le lieu, plongé dans les univers. Ça va être assez intéressant.
Et puis, si je peux me permettre de rajouter aussi, on a organisé une série de 4 conférences. Alors, pour ceux qui ont déjà lu nos articles dans le M42, on pourra approfondir la question, puisque moi-même et Thomas Rouillard, nous partons de ces articles pour organiser des conférences, moi sur le dialogue entre l'Ursa et Tolkien, et Thomas Rouillard sur la flore en terre du milieu. Et puis, il y a 2 autres invités. Une première conférence le 28 avril avec Annie Birx, et puis une dernière de Jean-Sébastien Steyer du CNRF et qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et qui viendra parler de Tolkien et l'essence naturelle en général. Et puis il faut savoir qu'au-delà de ce qui se passe dans les murs des musées d'Angers, nous avons aussi fait un partenariat avec les bibliothèques de la ville qui organisent elles-mêmes des événements autour de la littérature et des jeux, donc c'est aussi à explorer par ce biais-là.
De la fin.
Venez visiter l'exposition Aubusson Tolkien et Voyage en Terre du Milieu vous attendent.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Once love, love is no more. Don't say don't say I didn't try. These tears we cry are falling rain. All the lies you told us, the hurt, the blame, and we so in the end, I'll be what I will be. No loyal friend was ever there for me. No, we say goodbye. We say these tears you cry have come to me. Take back the night.
Allez, on reprend le micro juste pour se dire au revoir. Ouais, merci à Clément d'être venu parmi nous.
C'était la chanson de Gollum par Flavien, qui est un chanteur du coin, qui d'habitude chante en elfique, mais lui aussi fait des reprises
et ben,
des choses comme ça.
Et ben, il chante bien. Et ben, on se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble à nouveau les voies du scénarium.
Salut.
You are alone.